siento la vida me debo y me echo a volar en el cielo infinito.
Buenas tardes a todos, bienvenido al tiempo.
Serio, c'est pas sérieux.
Et on se retrouve aujourd'hui pour parler littérature avec mon pistolero préféré, le mariachi de mon cœur, mi hermano Rafael. Buenos días, Rafael.
Ah, buenos días, Gaspar. Et buenos días a tu la checa, sí.
Et avec le notaire de Raf, Cyril. Bonjour, Cyril.
Bonjour.
maître Cyril, merci d'être là ce soir. C'est quand même un grand plaisir de vous recevoir parce qu'on va parler d'un ouvrage aujourd'hui qui va toucher profondément à votre métier. Et donc on avait un petit peu envie d'avoir l'œil d'un expert sur ce qui se passe. Maître Cyril, vous pouvez nous dire de quoi on parle ce soir ?
Eh bien, ce soir, on va parler de Chronique d'une mort annoncée.
Ah, excusez-moi.
Crónica dos de la morra anunciada.
Bah, malheureusement, mon accent espagnol n'est pas aussi bon que le vôtre.
Alors, mais... peut-être meilleur en espagnol, mais mon accent est le meilleur, ça c'est...
Mais du coup, ouais, on va parler de Santiago Nazar, ce pauvre Santiago Nazar qui est devenu bah, de fait mon client, ou du moins ses descendants.
Donc tu nous parles en tant que personne directement concernée, et exactement. Est-ce qu'on peut dire que toi ça t'a mis une demi-molle de savoir que quelqu'un allait mourir et que du coup t'avais tout un testament à faire, tout ça ?
Ah ben oui, je suis probablement une des rares personnes avec le croquement à être heureux d'apprendre un décès, effectivement. Les pages nécrologiques dans les journaux.
L'idée aussi.
Oui, effectivement.
C'est ce genre de personne qui aime bien ça. En effet, on discute joie de vivre, plan sur la comète et avenir prospère en Colombie cette semaine, avec le roman de Gabriel García Márquez, publié en 1981. Et Gabriel García Márquez, il est né le 6 mars 1927 à Racatacatacata, en Colombie. Il est romancier, novelliste, mais également journaliste et activiste politique, comme toi, Raf, l'un des auteurs les plus significatifs du 20e siècle.
Je suis pas novelliste, ça c'est...
Excuse-moi, pardon.
Je suis télé-novelliste. Je fais les télé-novelas, c'est moi.
Écoute-moi. Il est étudiant, il poursuit d'abord des études de droit avant de se lancer dans le journalisme, où il devient très très critique envers la politique intérieure et extérieure de son pays. Puis il devient prix Nobel de littérature en 82, toujours comme toi. Gabriel García Márquez, il écrit d'abord des œuvres non fictionnelles, généralement bien reçues, mais ce sont ses romans, tels que Cent ans de solitude en 67, Chronique d'une mort annoncée en 80, ou alors L'amour au temps du choléra en 85, qui lui ont apporté la reconnaissance de la critique littéraire. Son nom est souvent associé au réalisme magique, comme Emir Kusturica.
Exactement. C'est pour ça qu'on est très content d'en reparler, parce que moi j'adore Emir Kusturica et Gabriel García Márquez.
Un courant artistique donc qui insère des éléments magiques et des motifs surnaturels dans des situations se rattachant à un cadre historique, culturel et géographique. Après de longues années passées au Mexique, Gabriel García Márquez vivait reclus et il est mort le 17 avril 2014 des suites d'un cancer lymphatique.
En 2014 ?
Ouais, papadapapa. Papa. Et à l'annonce de sa disparition, le président Santos a déclaré 3 jours de deuil national en Colombie. Je vous laisse reparler testament et notariat, s'il vous plaît.
Alors pendant ces 3 jours de deuil, toi, tu étais, je crois, à Mexico et tu t'es fait des tequilas et des putes, non? Tu étais très heureux.
Bah, en général, quand on va à Mexico, effectivement, c'est toujours très agréable.
Surtout quand quelqu'un est mort.
Hein,
c'est...
Bah oui, enfin moi, effectivement, je fêtais mon augmentation à venir, donc c'est.
C'est un beau testament, monsieur.
Exactement.
C'est parce que la généalogie, lui, il aime bien, donc forcément, il y avait de quoi faire.
Il y avait de quoi faire, effectivement. Il y avait pas mal de maisons à distribuer, notamment. Donc, non, c'était un week-end très prolifique. J'en suis vraiment très content. Et si on pouvait recommencer ça, un de ces quatre avec lui, ce serait agréable. Ça va être un peu compliqué.
Malheureusement, il est mort et on meurt qu'une fois. Enfin,
tu parlais généalogie. Pourquoi est-ce que ça intéresse beaucoup Gabriel García Márquez?
Eh ben, je crois que c'est un thème un peu récurrent, pardon, dans l'œuvre de Gabriel García Márquez, puisque ses œuvres les plus connues, comme L'amour au temps du choléra et surtout Cent ans de solitude, c'est le livre avec lequel moi j'ai connu Gabriel García Márquez. Eh ben, il aime bien parler de la familia.
La familia.
La graine, et pas la famille, genre, tonton, tata et grand-mère, non. Grand-père. Non, c'est ton arrière-grand-oncle, tu te souviens, celui qui est parti au Brésil, etc., et qui va revenir te faire un enfant discrètement.
Tu sais, Herman, ton oncle, oui. Qui est parti vivre en Argentine. Tu te souviens de ce grand-oncle, oui.
Celui qui te fait sauter sur les genoux, c'est Heinz.
Le Mossad, il l'a pas oublié, lui, ton oncle.
Alors ouais, très famille, mais très famille, genre, tout le monde a le même nom. Ça, c'est un truc que j'avais noté dans Cent ans de solitude.
T'es... Surtout que c'est à la limite du cliché, puisqu'ils s'appellent tous Pedro, oui. et Luis.
Aureliano, Juan, Juanito.
Ouais, moi j'ai plus trop les noms en tête, mais je sais que t'en as au moins 3 qui ont le même nom.
Pedro, Amigo et Jean-Paul.
Et il y a le colonel qui a nommé tous ses enfants Aureliano. Parce qu'il n'a eu que des garçons, hein, par.
Exactement. Donc voilà, Gabriel García Márquez, c'est quand même un ponte de la culture sud-américaine. Et c'est clairement, je me souviens plus, je crois que j'avais lu ça, genre dans un avant-propos sur un des bouquins de Gabriel García Márquez que j'avais lu.
Qu'en fait, il était finlandais, c'est ça.
Voilà, et que du coup, c'était vraiment un travail d'imagination particulièrement bien mené. Enfin, quand on lit ce Márquez, t'as vraiment l'impression, enfin, d'être pas dans un pays particulier d'Amérique Sud, mais que tout ce qui est de l'Amérique du Sud, tout ce qui fait les tacos, la stambrero et tout ça, c'est...
On est parti sur les clichés, on peut y aller
pas, d'accord. Ouais. Ouais, après, de toute façon, l'épisode...
Tu veux pas mettre ton sombrero, d'ailleurs, tu le lis très bien.
Et je suis bien avec ma tête. Tu peux ranger, s'il te plaît, tes mariachi, on les sortira pour la fin. Et que vraiment, t'as une patte sud-américaine hyper forte dans son œuvre, et tout, en fait, quand tu lis Gabriel García Márquez, bah, t'es hyper dépaysé, et c'est rare avec un auteur qui te rende aussi bien l'ambiance, notamment d'un pays, mais aussi des gens de ce pays. C'est-à-dire qu'ils ont tous une manière de penser qui est hyper particulière.
Et Dieu sait que quand on lit ce livre, on a envie d'aller en Colombie. Parce
oula,
que les gens ont l'air formidables.
C'est, ils ont l'air, je pense pas. Oh, je lui dirai plus tard qu'il va se faire buter.
Ils ont l'air compréhensifs, aimants et amicaux. Ouais.
Mais du coup, parce que...
Est-ce que tu peux peut-être raconter rapidement, Cyril, le pitch de Chronique d'une mort annoncée ?
Alors, le pitch est très simple. Le livre commence sur l'annonce de la mort de Santiago Nazar. Déjà, on commence, on
alors
sait comment
toi,
ça va se terminer.
Page 2, tu souris ouais. Déjà.
Exactement, moi je me dis, je me frotte les mains, je me dis c'est bon, je peux m'arrêter là, j'ai gagné ma journée.
Finalement, cette chemise, je peux me l'offrir.
Exactement.
Bonne ouais, prends-la, c'est bon, on peut la faire.
Prépare les valises, on va les remplir.
Ah, parce que et... là, c'est marqué, regarde page 2, là, il va mourir, c'est bon. Oh, j'espère qu'il me résout.
Page 3, ouais. Santiago Nazar sort de sa maison. Attends,
page 4. Oh merde, il a l'air d'aller mieux. Ouais, attends deux secondes, je pars tout. Ah, c'est bon, il y va. Vas-y.
Et donc, en fait, le livre raconte, donc, au travers des yeux d'un habitant du village, tout
qui,
le déroulé.
Qui n'est jamais nommé d'ailleurs.
Oui, on ne sait marrant. Pas. On connaît sa famille, on connaît sa sœur.
Est-ce qu'on pourrait l'appeler Hervé dans ce cas-là ?
Appelons-le Hervé, oui.
C'est ça. Hervé. Donc. On voit l'histoire à travers les yeux d'Hervé.
C'est ça. Donc Hervé nous raconte l'histoire. Alors, c'est assez tard, enfin, c'est beaucoup, enfin, plusieurs années après. Et il va nous expliquer tout le déroulé de cette nuit, de cette soirée, de ce matin. Et comment on termine le roman avec la fin tragique de Santiago. Et
une fin particulièrement tragique, puisqu'il va du coup mourir. Et qui, en fait, c'est, tout est dans le titre, hein, Chronique d'une mort annoncée, c'est parce que page 1, on te dit, le mec va crever, page...
116.
116, oui, voilà, la fin, il est mort, voilà. Et c'est tout ce récit qui va se construire autour de des... Alors ça, c'est la spécialité de Gabriel García Márquez, c'est... Alors, j'ai l'intention de vous parler de cet événement A, là. Mais attention, regarde, parce que tu vois ce papillon juste ici, il a une importance capitale pour l'histoire.
Parce qu'il l'a rencontré il y a 6 mois.
Il l'a rencontré,
vous voyez
il
ce le papillon savait. Il savait tout depuis le début.
Voilà, c'est un petit peu comment est-ce que tu peux, à partir d'un fait qui prend 3 lignes, et d'ailleurs, si on regarde un petit peu...
Le bouquin fait 3 lignes.
Le pitch fait 3 lignes. Hein, c'est quelqu'un, tout le monde sait qu'il va mourir et il meurt, qui est d'ailleurs adapté d'un vrai fait, d'un vrai fait divers que Gabriel García Márquez avait lu très longtemps avant d'écrire le bouquin. Il disait j'ai vachement envie de raconter ce truc-là. Et en fait, c'est tout le talent ou problème de Gabriel García Márquez, c'est que là où il aurait pu te faire 10 lignes sur le truc, t'en as pour 130 pages avant. Oui, mais j'ai compris qu'il était mort. Mais est-ce qu'on est obligé de passer sur sa tante et de raconter d'où ils viennent, de l'Espagne et comment ? C'est que des trucs comme ça. Alors, c'est vachement bien écrit, donc c'est hyper sympa. Mais c'est vrai que Gabriel García Márquez, c'est l'auteur à rallonge.
Et je me fais justement voilà, un très rapide point. C'est un livre qui est bourré, mais alors bourré de détails. Donc, inévitablement, on va être obligé d'en zapper pas mal et se concentrer sur l'intrigue principale, donc cette mort de Santiago Nazar.
Oui, peut-être ce que tu en penses, toi, comme ça. Est-ce qu'il t'a plu, ce bouquin, déjà ?
Mais ce bouquin m'a plu, mais en fait, je suis totalement d'accord. C'est vrai que le pitch pouvant se résumer en une phrase, c'est un bouquin qui est fait pour des gens qui ont du temps à perdre. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se dire, bon, bah, écoute, je connais la fin dès le début, mais je vais quand même me faire
c'est
ces 116
pages
titre,
quoi. Ouais, c'est
pour savoir comment était habillé l'évêque et savoir qu'il aimait les soupes à crête de coq.
Mais je peux me faire chier à lire 130 pages, c'est marqué, là, le mec est mort. Bon, bah,
exactement. Voilà. Mais sinon, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup Gabriel García Márquez, puisqu'il a ce don de faire mourir beaucoup de gens. Et moi, comme on a pu le dire, ça me plaît. Et
je le salue d'ailleurs, merci. À ta mort, c'était vachement bien.
Exactement.
Tu vas saluer les grands-parents de tous nos auditeurs.
Bah oui, c'est vrai, je leur fais un salut amical et je leur donnerai mes coordonnées en fin d'émission.
Tout à fait professionnel.
Bien sûr, voilà.
Une grosse tape dans le dos, mais une bien grosse.
Et du coup, voilà, donc un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Et commençons à le raconter. Il y a tellement de choses à dire dessus que.
Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est moi Dominique, la fée de la lutte contre les discriminations. Mes amis fées et moi, on n'aime pas le grave, et on n'aime pas les gens qui imitent de mauvais accents, et accumulent des clichés qui sont faux. Nos différences sont une chance, et l'amour des autres, une force pour obtenir une véritable justice sociale. En représailles, la Halde nous a demandé de couper les micros de ces énergumènes qui répandent la haine sur les hommes. Et le mieux, c'est qu'ils ne vont pas s'en rendre compte que leurs micros ont été coupés. La lutte pour l'amour de son prochain ne fait que commencer. À très vite, les copains. Retrouvez-moi sur ma page Facebook et Instagram.
Donc le récit est quand même assez particulier parce qu'on va aller d'un personnage à l'autre, on va suivre d'abord un tel, etc. On va voir le point de vue un peu de tout le monde sur cette soirée, mais du coup, ça va faire plein d'allers-retours pour, bah, comme on dit depuis tout à l'heure, quelque chose d'assez simple. Hein, c'est un tel, tout le monde sait qu'il va être tué, et ben bah, il est tué. Mais c'est pas la manière de faire de Gabriel Garcia Marquez, parce que Gabriel Garcia Marquez, il prend les choses pas comme il faut. Et il va commencer en nous parlant de...
Santiago Nazar.
Santiago Nazar.
Donc la personne qui va se faire tuer.
Moi, personnellement, que j'appelle Thiago Silva à partir de maintenant, parce que c'est...
On peut l'appeler Thiago Silva, donc big up à tous nos sportifs de PSG.
J'ai une liste de plein de noms de joueurs de foot brésiliens et je vais les utiliser randomly pour des noms de personnages parce que
ça se passe en Colombie.
Parce que ça se passe en Colombie et comme j'ai aucune idée de. Enfin, c'est des gens avec des consonances.
Oui. Voilà.
Comme j'ai aucune idée
de. Entre l'espagnol et l'usophone, il n'y a pas de.
Donc voilà, pour moi, c'est Thiago Silva. Donc Thiago Silva se réveille.
Il se réveille le lendemain d'un énorme mariage. Il se réveille en énorme GDB, comme notre copain Kafka il y a quelques semaines.
Alors il est pas cafard, il est quand même plutôt content.
Il se réveille à l'aurore, pourquoi? Parce qu'il veut absolument se réveiller pour assister à l'arrivée de l'évêque qui vient pour honorer, bénir, voilà, merci, les nouveaux mariés. Et Santiago, enfin Thiago Silva, il a très très envie de voir l'évêque. Il est encore habillé dans ses beaux vêtements de mariée.
Ouais, il est tout blanc, il est magnifique. Il est super.
Il sort, il se réveille, il claque la bise à sa mama, il prend le petit déj avec eux, et là on commence à comprendre plus ou moins qui est Santiago Nazar.
Santiago.
Santiago Nazar, il est très jeune, il a 21 ans, il est beau, il est fringant, il est sympa et tout.
Il a de la thune, ouais, il est sympa, il est...
Il a repris l'hacienda de son papa. Voilà.
Et il a de l'argent, il est beau, il viole des petites...
Il a beaucoup de pistolets.
Et surtout, on commence à comprendre qu'il fricote pas mal avec les filles, comme son père, et qu'il se tape plus ou moins la cuisinière, qu'il se tape plus ou moins la fille de la cuisinière.
Enfin, il essaie de serrer la gabine, mais tu comprends très vite qu'elle a pas plus de 11 ans, et t'es en mode... Putain, mais Thiago Silva, ressaisis-toi, nom de Dieu.
Il a gardé ses beaux vêtements et il décide de se dépêcher. Il avale rapidement son petit-déj parce qu'il a envie très vite d'aller au port.
Alors que c'est le repas le plus important de la journée.
Vrai,
est-ce qu'on peut pas dire que c'est un petit peu une bonne leçon? Et si tu manges pas ton petit-déj, bah, tu finis crevé dans l'heure. Voilà.
C'est à peu près ce qui se passe.
Il aurait dû ne pas oublier les produits laitiers aussi, qui sont nos amis pour la vie et qui l'auraient aidé peut-être.
Peut-être. À avoir des bons os solides. Et peut-être qu'il aurait pu arrêter les coups de couteau qu'il va se prendre après. Quoi.
Exactement.
Spoiler alerte.
Il part de chez lui, il part exceptionnellement par la porte de devant, qui est d'habitude toujours fermée. Il passe, et là, il fait pas attention à un truc. Qu'est-ce qu'il y a à ses pieds à ce moment-là?
Il y a un petit mot.
Un superbe paillasson avec marqué « Bienvenue ».
Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenido à todos.
Il y a un petit mot, on apprendra ensuite qu'est-ce qu'il y avait sur ce petit mot, mais du coup, qu'est-ce que nous, on peut déjà devancer le truc?
On sait que ce petit mot lui annonce à l'avance que des gens veulent le tuer. Mais ce petit mot, il va passer au-dessus sans s'en rendre compte.
Tout excité
à l'idée de voir l'évêque, hein, parce qu'effectivement, c'est plus excitant que de voir un évêque arriver sur son bateau.
Oh l'évêque, qu'est-ce qu'il était beau.
Oh là là.
Moi, ça m'a tout chamboulé là, quand ils ont nommé le nouvel évêque de Paris. Moi, j'étais, il a fait le coucou de la Notre-Dame. J'étais surexcité.
Et là, on voit quand même un des premiers trucs, et vous disiez que Gabriel Marquez, c'est le champion du détail. Il sort de chez lui, et le bateau arrête de sonner, les coqs arrêtent de chanter, comme si d'un coup... La mort régnait dans la ville dès que Santiago sort de chez lui. Non mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il sort de chez lui et d'un coup tout s'arrête. Et en fait tu sens que ça pue la mort quoi. Il descend, il va très très vite. Et en fait en bas de la rue, à côté du port...
Il
va
tellement vite, il casse la gueule. Ah, il roule jusqu'au bout.
Au bar, il y a deux types qui attendent au bar. Et ils attendent l'arrivée de Santiago. Qui c'est ces mecs? Qu'est-ce qu'ils attendent?
C'est Roberto Firmino et son frère.
Pas du tout.
Je connais pas le nom du frère de joueur brésilien.
On peut l'appeler Roberto Carlos.
C'est Roberto Carlos, c'est son frère. C'est très bien. Donc Thiago Silva va se faire crever par Roberto Carlos et son frère jumeau.
Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils attendent?
Parce qu'il lui a manqué. Et parce que, en gros, les frères Roberto Carlos et Enco. On le somme contre Thiago Silva qui apparemment il aurait tronché leur sœur. Est-ce qu'il a mis fin au mariage de la famille Carlos
qu'on célébrait la veille? En fait
on célébrait la veille, qui était la teuf que tout le monde faisait dans le village,
et teuf durant laquelle ils ont passé toute la nuit ensemble et à boire jusqu'à 4h du matin.
Voilà, donc, jusqu'à 4h du matin ça allait, puis apparemment vers 4h du matin il y a un événement qu'on ne connaît pas encore mais qu'on nous apprendra après, qui fait que Thiago Silva, il va falloir le crever, et donc Roberto Carlos et son frère, on a donc décidé de remplacer des
Ils attendent au bar et ils ont des couteaux à la main.
Voilà.
Et Les gens n'ont pas l'air d'être plus préoccupés oui, que ça.
Ils sont hyper branlés en plus.
Ils sont... Non, mais j'ai l'impression que... En fait, ce qui est très drôle, c'est que ce qu'ils nous expliquent, c'est que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qu'ils vont faire. Ils le disent à tout le monde. C'est ils sont vraiment en mode ouais, on attend Thiago Silva, on va le planter, quoi. Il n'y a pas de souci.
C'est la nouvelle capitale du crime. C'est tout le monde est au courant. Et on voit les couteaux sous les journaux, mais on les accepte.
Et d'ailleurs, ça va être un gros problème.
On attend les évêques et Thiago Silva.
Oui, ça va être un gros problème pour eux aussi, parce que franchement. Mais... Tu vis dans une ville, mais d'enculé de première. Tout le monde sait que tu vas te faire planter. Et tout le monde fait. Non, mais c'est pas moi qui vais me charger. Il y a bien quelqu'un d'autre qui va le faire.
À côté, Métropolis, c'est Neuilly. Enfin, oui.
Il y en a qui ont raison de pas le dire, parce que vraiment, ils l'aiment pas, Thiago Silva. Parce que notamment, on comprend que son père.
Parce que son transfert au PSG, c'était pas
terrible. Il y a des vraies raisons racistes pour le tuer. Et il y en a d'autres qui sont vraiment en mode genre. Oh, bah ça va, tout le monde le sait, il va vite la prendre.
Ou alors, c'est vraiment des trucs genre. Ah, mais il faut que j'aille lui dire. Ah merde, pardon, faut que j'aille prendre le lait d'abord. Bon, bah, je vais d'abord prendre le lait.
Faudrait pas que le lait tourne, hein.
Ouais. Ou alors, on aura la raison, on en reparlera après, mais la raison du capitaine de police, pourquoi est-ce qu'il
va pas dire,
elle est magnifique. On reviendra là-dessus. Bref.
Il arrive au port, Thiago Silva, pour assister à l'arrivée de l'évêque. Et sauf que là, l'évêque, il fait un coup de chapeau. Magnifique, qu'est-ce qu'il fait, Cyril, l'évêque?
Bah, il reste sur le bateau, il fait un bonjour, et il repart.
Est-ce qu'il y a se poser ou pas?
Salut, mes enfants!
L'intégralité du village est là, ils sont prêts à fêter son arrivée, à l'acclamer comme un prince. Et la est prête à partir et. Oh. Et l'évêque s'en va.
Et en plus, il le décrit pas bien parce que c'est vraiment
les frères vont aller planter l'évêque plutôt.
Conseil les pots descendus
au bateau. Sorte le sniper,
descends.
Le fusil à lunettes au loin à 900 mètres sur le bateau.
T'as essayé parce qu'il décrit en plus vraiment l'arrivée de l'évêque en mode. Tel le bateau passe en driftant, les yeux en... Et les mecs qui sortent avec une microseconde de sa tête, fait hey, vous êtes bénis, ouais.
On comprend que l'évêque a pas envie de mettre les pieds ici parce que, apparemment, c'est quand même un village qui a une réputation de fou.
Oui, et on va le comprendre.
On va le comprendre dans ce pavé de 130 pages que c'est un village de fou. Santiago se fait inviter pour le petit déjeuner par Margot, qui est donc la sœur d'Hervé, le narrateur, qui le trouve très séduisant. Il accepte donc, mais il décide d'aller se changer parce qu'il est encore dans les vêtements de la veille dans laquelle il s'est déglingué. Et là, donc, on disait, beaucoup de gens au port savent que Santiago va se faire planter, mais personne ne le prévient parce que soit on se dit qu'il va la prendre, en plus, les gens savent qu'il y a un mot qui a été glissé sous sa porte, ils se disent, il est au courant, le champion.
Alors ça, c'est génial, parce que absolument tout le village sait, mais il n'y en a pas un qui se dit, c'est mon problème, quoi.
Bah, c'est même Margot, elle, du coup, elle accepte, oui. Elle l'invite à prendre son petit-déj, elle rentre chez lui. Elle apprend que du coup, la mariée la veille s'est fait renvoyer chez elle. Parce que, et là, on apprend pourquoi.
Et bah parce que, apparemment, Thiago Silva, il aurait pas fait que jouer au docteur avec elle.
Non, on sait pas encore, c'est ça. On apprend qu'elle est pas vierge.
Ah,
et elle, on sait pas qui.
Et elle, Margot, se dit tout de suite oulala, je sens que Thiago Silva est là-dedans. Elle se dépêche pour aller avertir sa mère, sauf que c'est déjà trop tard. Et c'est la fin du chapitre 1. Et débute alors le chapitre 2 qui cette fois-ci va s'intéresser à Bayardo Saruman, qui est donc le type qui s'est marié, et là on va voir toute son histoire.
Ouais, alors ça, Saruman du coup c'est lui qui va se marier avec la meuf, on va apprendre qu'en fait elle est plus vierge, peut-être à cause de Thiago Silva, ce qui va enclencher la vengeance des frères Pastor là. Et c'est eux comme ça qu'on les appelle maintenant.
Non, on les appelait Roberto Carlos. Maintenant, on peut changer les noms de personnages toutes les 30 secondes. Il n'y a pas de
problème.
Tu vois que ça a une consonance.
Personne ne nous écoute.
Oui, de toute façon, c'est pas très grave. Donc, ouais, les frères Roberto Carlos. Et du coup, on apprend c'est un type qui a un petit peu débarqué dans ce village.
Il y a 6 mois.
Il y a 6 mois, pratiquement par hasard. C'est aussi une grande marque de Gabriel Garcia Marquez. C'est les types qui arrivent dans un endroit et il va te raconter la chronique un petit peu de leur arrivée, de comment ils vont s'installer dans le village, les relations qu'ils vont commencer à avoir avec les gens. Et lui, il arrive clairement, il fait claquer, quoi. C'est Jeffrey, remets-nous des glaçons.
Je suis pas là pour niaiser.
C'est-à-dire que le mec, il arrive, il est riche, il va dans les bars, il paye des coups à tout le monde. Ensuite, il voit la gamine, il voit la petite meuf, là, qui, avec qui va se marier, il fait, toi, je vais t'épouser. Elle fait, non, mais pas du tout. Il fait, j'ai de l'argent. Elle fait, d'accord, tu vas m'épouser.
C'est que ça va très vite, comme. Le mec arrive en mode turbo connard, il dit clairement, je suis là. Pour poser, quoi.
Voilà. Je suis là pour me marier.
Pour trouver une épouse, exactement.
Ouais. Je suis là pour me marier, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je veux la meuf. Sa mère dit, non. Il fait, voilà 10 000 euros. Elle fait, ok. Ensuite, il va voir un mec qui fait...
Ce genre de démarche, en tant que notaire, on peut apprécier, non? Tout ce qui est donation, tout ça, ça
ah, bah, c'est toujours agréable. Moi, ça me permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est des petits actes à droite à gauche, comme ça, et c'est toujours...
Ça mange pas de pain, quoi.
Exactement.
Les notaires sont vos amis, hein, il faut les aimer aussi.
Ah bah, bien sûr, on est là pour vous, hein, après tout. Mais ce qui est très drôle, c'est quand même que Bayardo aille dans ce village pour trouver sa femme. Enfin, il aurait pu rester à la capitale, il est allé en Europe. Ouais. Il vient dans le trou du cul du monde. Il faut dire les choses.
Ça a l'air d'être vraiment le village un peu de techno. Genre, lui, à un moment, il va s'acheter une bagnole. C'est tout le monde à moi dire, une bagnole. Il y a des chevaux dans ton truc. Maintenant, du coup, c'est une voiture. Mais t'as l'impression que ça choque un peu tout le monde. Mais le mec, du coup, il va claquer du bifton. Et il va en imposer grave.
Surtout le mieux, c'est qu'à un moment, il veut un peu impressionner la meuf. Il dit, je vais t'offrir une maison. Et au début, la maison de tes rêves. Et genre, limite, elle pointe du doigt la maison du petit vieux à côté. Elle dit, je veux celle-là. Donc il va voir le petit vieux.
Le petit vieux avec qui j'avais fait la succession. Hein,
c'est ça, d'accord. Ouais. Donc le veuf Xiu, ça s'appelle.
Xiu.
Et le vieux, il dit, pas du tout, elle est pas du tout à vendre ma maison et tout. Et le mec, pouf, il lâche les bifetons, il rachète la maison du petit vieux qui se met dehors en deux secondes.
C'est ça, c'est du coup, Santiago, là, il est tellement riche et tellement stylé que tout le monde se dit, c'est un petit peu bizarre. Et le mec dit, non, moi je vais épouser la meuf et je vais vous montrer que je suis pas un pecno. Je vais faire la plus grande fête de tous les temps et pour montrer que je suis pas n'importe qui, je fais venir ma famille. Et là, la famille elle arrive et alors putain, ça impose. Hein. Là, c'est rubis sur l'ongle, les mecs ils rupaillent.
Ils ramènent tout le monde quoi.
Et le mec il est rupin quoi. Il amène son papa, dont après il va nous faire un petit commentaire sur ses couilles vénérables. Assez marrant, putain, un colonel de l'armée, sa maman très belle, etc. Bref, on comprend que le mec pèse carrément dans le game et tout chapitre 2 est dédié à ça.
Et dédié à ça, on apprend aussi qu'il va épouser Angela. Qu'un énorme mariage va être organisé et là en fait, on revit d'un coup les événements de la veille du chapitre 1, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, et on comprend ce qui s'est passé de son point de vue, c'est-à-dire qu'il fait la teuf, il fait le discours, les témoins, le PowerPoint rigolo, voilà, les photos de mariés, la chanson détournée. Il revient
en les savettes, les savettes. Comment on chante les tournées les savettes en espagnol?
On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, ça, tous ses copains font ça. Et
il dit à tout le monde qu'il aime parce qu'il est bourré, voilà. Parce que ils font pas la fête à moitié, hein. ils sont ultra pétés quoi.
Et ben on a probablement
les frères de la mariée sont ivres depuis 3 jours.
Ouais. Ils sont très heureux, ils aiment beaucoup
ils font le détail de toutes les bouteilles qui ont été ouvertes, c'est genre je sais plus quoi, il y a 250 barils de rhum.
Et justement, et c'est ça qui est très drôle, c'est que Santiago Nazar, son occupation favorite du coup le lendemain en attendant le prêtre, c'est de calculer le coût de la noce. Et
c'est une noce à plus de 10 000 pesos ou une connerie comme ça, enfin c'est pas mal.
Non, c'est un énorme apéro de putain d'alcoolo quoi.
C'est un gros apéro. Il y a des apéros sur les Champs-Elysées à côté, c'est...
Ouais. Putain, Bayardo, il ramène Angela pour lui faire la chose, sauf que là, on comprend que ça tourne mal dans la chambre, on n'est pas dans la chambre, mais on comprend que ça tourne très très mal. Il sort furieux, il renvoie Angela chez sa mère en mode.
C'est vraiment parce qu'il la prend par la main et il fait allez, tu rentres chez ta mère maintenant.
C'est ça.
Et il toque à la porte.
Je te prends un Uber, tu rentres.
Ouais, à 4h du matin, parce qu'en plus, ils avaient disparu. Tout le monde disait il la nique.
On veut le drap.
Mais c'est ça.
C'est ça, ils attendent tous le drap.
Tous le drap avec le.
Avec la main, tu sais, avec le sang.
Bye, Lenda. Et il va voir tous ses potes, il leur fait les traces sur le front. Oui! Oui! Elle était vierge!
It is done! Non, mais bref, il la ramène. Et en fait, la famille d'Angela, elle récupère la fille. Et en fait, ils sont furieux parce qu'ils comprennent quoi? Angela n'est pas vierge. Et malheur à vous, la famille d'Angela.
Mais alors, qui c'est qui l'a fait qu'elle est plus vierge?
Angela, elle commence à se faire démonte par sa mère, qui commence à lui foutre des claques, des fessées, tout ça.
La mère a fait Mortal Kombat.
Mais sa mère est hyper chaude dans
l'UFC. Elle a fait un book de Mortal Kombat, elle a fait de l'UFC dans sa jeunesse.
Round one, fight! Et commence à lui éclater la gueule. Qui t'a fait la chose? Et là, on ne sait pas si elle a un moment d'hésitation ou pas, ou si elle balance un nom au hasard.
Et on ne le saura jamais, d'ailleurs.
Et là, du coup, elle balance un nom.
Santiago Nazar.
Santiago Nazar serait la personne qui lui aurait fait le... Et du coup, les frères décident de saisir deux couteaux et d'aller se venger.
Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons.
Et après, le point de vue de Santiago, après le point de vue de Bayardo, on attaque avec le point de vue des deux frères Roberto Carlos, qui sont donc les deux frères d'Angela, qui viennent d'apprendre que leur sœur s'est faite... Et qui décide d'aller laver l'honneur de la famille en tuant Santiago Nazar, qui est censé être le coupable.
Voilà. Mais alors, coupable et demi. Parce qu'on sait pas vraiment, et surtout ce qu'on apprend, c'est que 20 minutes avant, ils étaient en train de faire la teuf tous ensemble, et qu'au moment où, en gros, on ramène la fille à la maison en disant, elle est plus propre, elle a été salie.
Non, mais les draps étaient très propres, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Les draps étaient peut-être trop propres pour eux, voilà. Et du coup, ils font, on va le tuer, on va le buter, on va le choper, ce salaud. Alors que juste avant, c'était ses meilleurs potes. Et du coup, se met en place un petit peu tout ce qu'on va voir pendant tout ce chapitre. C'est la vengeance, la vendetta.
Il commence à dire à tout le monde qu'ils vont se venger.
Un crime d'honneur.
Un crime d'honneur, ouais. Qui sera d'ailleurs, parce qu'on a aussi tout le passage, tout au long du livre, tout le passage un peu leur jugement, parce qu'après, on sait que c'est...
Ah, c'est plus tard, oui, ça.
C'est plus tard, mais il s'est un peu distillé dans c'est le livre, ouais. Et on apprend quand même qu'ils vont être complètement lavés, parce que bah, c'est un crime d'honneur, enfin, c'est...
Oui,
c'est
non, normal, surtout que...
L'avocat plaide l'innocence sur l'honneur.
Oui, on apprendra qu'après avoir tué Santiago, ils sont allés tout de suite à l'église,
oui.
et le prêtre les a lavés de leurs péchés, et allés témoigner devant la justice en disant « Si, si, aux yeux de Dieu, ils sont propres. »
Nickel, pas de soucis.
Sauf que justement, l'info en disant, ils n'arrêtent pas de dire à tout le monde, on va aller buter Santiago, on va aller buter Santiago.
Ils le disent à tout le monde.
Et en fait, l'info, elle
tu dors?
Ouais.
Ouais, un peu, ouais. On va aller buter Santiago. Ouais.
Quoi?
On va aller buter Santiago.
Ah, ok.
Et ben voilà, il y en a qui en ont absolument rien à carrer, il y en a d'autres qui sont assez contents, comme on disait, puisqu'ils sont assez racistes. Et du coup, les frères décident de prendre des couteaux de boucher, ils vont attendre au bar.
Parce qu'ils sont bouchers, d'ailleurs. Ils sont,
en plus.
Ils butent des cochons. Alors, on a
égorgeurs de cochons.
Ils sont égorgeurs de cochons, donc ils ont de très beaux couteaux. Ils vont au marché, ils les font aiguiser. Le mec dit « Pourquoi vous voulez faire aiguiser vos couteaux à 5h du matin ?»«
C'est pour tuer Santiago la salle !»
Ah ok, bonne journée. Ouais.
Très bonne journée.
Mais ils mettent beaucoup d'applications à les faire. Hein. C'est pour ouais. Vraiment, il est 5h du matin, mais c'est...
En plus, ce qui est génial, c'est que moi, ça m'a fait un peu penser
ouais,
genre
quitte à me faire poignarder, j'aimerais être poignardé de manière aussi classe. Ah ouais, non, mais attends. Ils ah aiguisaient leurs couteaux et tout.
Mais il est dégueulasse ton ouais. Couteau.
Après, c'était ah les couteaux qu'ils avaient prévu d'utiliser.
Ouais. Ils hésitent pas un moment alors que les mecs ont 8 grammes dans le sang.
Surtout qu'on comprend qu'il y a un des deux frères qui est censé être un peu moins téméraire que l'autre. Et au contraire, c'est sous l'effet de l'alcool, c'est lui qui est en train de devenir le mec le plus déglingue des deux. Qui est en mode genre, ah si, si, faut qu'on
on va se le faire, on va se le faire.
Il est gorgé et tout.
T'es sûr quand même?
Ouais, on va se le faire.
Bon, on va se le faire, d'accord, on y va quoi. Mais t'as tout ce truc assez drôle, c'est que l'auteur, avec un petit peu de recul, fait sentir en fait que les deux personnages disent on va le crever, mais qu'en fait ils le disent tellement et sont tellement.
Les gens pensent qu'ils sont bourrés, en fait.
En fait, voilà. Et ils le font avec tellement soi-disant d'aplomb que l'auteur émet l'idée qu'en fait, bah, ils n'ont pas du tout envie de le crever, qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils
en parlent
à tout le monde, c'est que quelqu'un leur dise « Non, mais attends, tu vas pas, tu t'assois et je le garde. » Et ce qui va se passer, qui est assez génial dans ce livre, c'est que ça va jamais se passer.
Ça va plus ou moins se passer avec un policier, non?
Ben oui, il y a un policier vient les voir, donc au moment où ils sont dans le bar, où ils attendent que Santiago Nazar revienne du port où il attendait l'évêque avec leur couteau.
Qu'est-ce que j'apprends? On veut tuer quelqu'un?
Moi, je sais pas bien tout ça.
Je sais pas bien, dis donc.
Qu'est-ce que j'apprends? Et il leur dit,
Maqué!
D'une manière très calme et très déterminée, rentrez chez vous.
Non, il prend les couteaux.
Et il leur dit, rentrez chez vous, vous êtes ivre.
Écoutez, Madame Chazelle. Qu'est-ce que je devais faire?
Est-ce que vous me prêtez 2 neurones?
Voilà, est-ce que.
Ils sont deux, donc au moins, voilà, ils en ont un chacun, c'est déjà bien.
Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais arrêter ces personnes qui n'avaient commis aucun crime?
Ça se trouve, il a dû se dire, c'est des couteaux de merde. Eh, rentre chez vous, là, il cherche des meilleurs trucs que
c'est
ça.
C'est quoi ce truc, là?
Bah, à tel point qu'il rentre chez eux, il rechoppe 2 autres couteaux.
Il fabrique, ouais, 2 autres couteaux qui sont de moins bonne qualité, cette fois,
oui, alors voilà, ils sont même pas aiguisés. Donc, ouais. Tu vois, ça.
Avec les lames un peu tendues, ouais, etc.
Il retourne au bar, et là, celle qui tient le bar commence à se dire, bon, bah, en fait, le seul moyen de les arrêter, c'est
de les prouver à mort, quoi. Parce que les forces de l'ordre ont vraiment accompli leur travail en disant « Bon ben, j'ai les couteaux, est-ce qu'ils vont pas aller chercher au couteau ?» Non, c'est pas...
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, moi, hein?
Nous allons tenter la légitime défense.
Oh,
oh, bravo! Elle est magnifique, celle-là. Très, très belle.
Et tellement belle que, du coup, Gabriel Garcia Marquez, il se sent obligé, comme tu disais, de nous raconter toute l'histoire du bar, d'un coup.
Et donc, on apprend un petit peu la construction, les problèmes avec les fondations, et puis
c'est passé un tel, etc. Comment on redéverse, bref, il y a tout un chapitre sur la comptabilité d'un bar.
Alors ça, peut-être,
très, très
vous pouvez nous parler un petit peu, parce que forcément, aller poser les papiers à la mairie pour avoir le droit de faire la...
Ah oui, bah, il faut aller en préfecture, en général, pour demander son autorisation de débit de boisson.
Mais exactement.
Ça peut prendre pas mal de temps.
Une licence 4, si je me trompe pas.
Alors là, vu qu'elle leur sert du rhum, si ma mémoire est bonne, effectivement, il y a une licence 4.
Sans parler du permis de construire, alors ça c'est parce que d'abord il y a l'étude d'impact, et puis bon, il y a tout le volet environnemental qui est hyper compliqué.
Là il y en avait pour des années, effectivement, mais on peut penser qu'un chronique d'une mort annoncée 2 sortira sur l'histoire du bar et des 15 victimes.
Exclusivement là-dessus. Et du coup, bah, ça continue, donc les deux boivent, mais ils boivent tellement qu'ils finissent par s'endormir, et en fait on comprend qu'ils ratent une première fois le Thiago Silva.
Thiago qui est allé voir l'évêque.
Voilà, qui est allé voir l'évêque, qui est allé à la nage, monter sur le bateau.
Et à ce moment-là, la femme qui tient le bar se dit, je vais pas aller voir Santiago pour lui dire qu'ils veulent le tuer. Elle se dit, je vais arrêter de respirer et je ne vais pas faire de bruit pour qu'il ne se réveille pas.
C'est ça.
Effectivement, ça marche, il ne se réveille pas, mais elle ne va pas le voir.
Voilà,
elle le laisse passer.
Ça ne change pas les affaires de Santiago. Quoi,
Santiago a toujours toujours sa tête qui est mise à prix. Et...
Plutôt que d'appeler les flics pour virer le pédophile devant l'école, je vais retenir ma respiration.
Peut-être que si je ferme les yeux dans 15 secondes, il sera parti. Ah bah il est parti. Et le petit Théo aussi. Sa mère est venue la chercher, c'est bien. Et donc malgré toutes ces bonnes petites attentions, Chronique d'une mort annoncée est un titre qui va bien, puisque Santiago Silva va quand même, Thiago Silva va quand même mourir. Et c'est ce qui nous amène au chapitre 4 avec un passage un peu violent. Et alors, puisque l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a pu comprendre que dans ce village, de toute façon, il ne fallait, fallait pas compter sur les autres pour nous aider. Et on croit qu'on va arriver tout de suite au meurtre, mais non, astuce de l'auteur,
hein.
Parce que là on va faire une ellipse dans le temps et on va pas voir le meurtre, on va d'abord passer à qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait, voilà. Et du coup Hervé qui retrace un petit peu cette chronique non annoncée va nous un petit peu nous raconter ce qui s'est passé après en fait.
Et juste après le meurtre, oui. Puisque on ouvre dessus.
On ouvre sur l'autopsie.
Voilà.
Ouais, le chapitre commence sur l'autopsie et on apprend que dans l'école primaire est souillée littéralement. Que c'est le prêtre qui s'occupe de l'autopsie à défaut de médecin légiste.
Parce que Roberto, tu feras attention, il reste un petit bout de boyau dans ton casier là, s'il te plaît.
Exactement. Et malheureusement, vu qu'on est dans un village très développé,
il voulait se faire toucher par l'évêque, il sera dépouté, complètement autopsié par le prêtre.
Voilà, vous envoyez les intestins à l'évêque pour qu'il les bénisse.
Touchez mes écrouelles, mon père. et
vous on a porteront chance.
Pourquoi on a coupé le pénis? Il est où le pénis?
Il est nulle part.
Et on apprend que tous les chiens du village veulent le manger.
Oui.
Parce qu'il y a une odeur, je cite, de tripes qui se balade dans...
Voilà, ça c'était un petit easter egg qu'on avait, parce qu'au début, on apprend que la cuisinière, en fait, passe son temps à filer des tripes aux chiens, et du coup, quand ils sortent les tripes de leur maître, c'est ça qui est encore plus cruel, ils n'ont qu'une envie, c'est de venir bouffer des tripes. Hein.
Une odeur putride qui fait
très, très révolutionnaire, ce bouquin, du coup, c'est les chiens veulent manger leur maître. Et du coup, il finit effectivement dans une boîte, comme on peut l'imaginer, et il est enterré quelques jours plus tard.
Non, est-ce que c'est pas le moment où d'un coup toi t'as les plus grands frissons parce que tu te dis putain
c'est là ça se passe,
on est dans le cœur de la succession là.
Surtout t'as quand même
là débute une semaine de folie pour toi. Voilà. En fait.
Il a une hacienda avec plein de chevaux, etc. Enfin,
là je sais qu'à partir de ce jour j'ai une semaine avant mon closing et il va falloir y aller quoi. Donc
surtout qu'en plus il manque quelques bilans comptables, donc là on peut gratter sur les chiffres en plus.
Ouais, c'est ça voilà. Bon après
là, c'est superbe, là c'est un cas d'école là vraiment.
Ouais. Tu rajoutes un zéro qui s'est glissé.
Après j'avoue qu'avec la loi Sapin 2 et le verrou de Bercy on peut toujours s'arranger dans ces cas-là, mais effectivement il y a eu pas mal de.
Mais tu vas très très fort là parce que pour les auditeurs de leur rire. La loi sympa 2.
Déjà il y en avait une 1, ouais. J'étais pas forcément au courant.
J'ai même pas vu celle-là. Donc.
Après justement cet enterrement, on voit qu'il y a une véritable psychose d'ailleurs qui arrive dans le village. On a peur que tous les Arabes se rebellent. Je sais, oui. Parce que Thiago Silva est arabe.
Faut expliquer quand même, oui, il y a une tension raciste dans tout. Exactement. Le village qui est assez puissante. Quoi.
Et qui est, c'est ça qui est drôle, calmé par le fait qu'un des frères ou un des membres de la famille Vicario est malade et a la diarrhée. Et calmé, oui. Par une tisane médicinale qui est préparée par une arabe. Voilà. Et c'est grâce à la diarrhée que le village est calmé.
On est passé à deux doigts de la merde. et du coup, cette famille Vicario va plus ou moins se barrer du village. Et là, en fait, on va avoir, comme disait Raph, énormément d'années qui vont se dérouler en un seul chapitre.
On a le délitement de ce que... Roberto Firmino,
déchéance de Bayardo Sanoman, qui va se barrer.
Bah déjà, il est énormément bourré, il est en mode foutez-moi la paix. C'est à ce moment qui me fait bourrir, c'est que t'as le capitaine de police, le mec vient d'être massacré, il fait oh putain, le con, j'avais oublié lui, c'est vrai qu'il faudrait aller le chercher. Mais t'as pour le mec, il est en coma éthylique, qui s'est déchiré la tranche parce que sa femme, apparemment, n'était plus vierge. Et du coup, c'est toute sa déchéance, le mec, il va partir, il va aller laisser la maison à l'abandon. Hervé va nous raconter que d'année en année, y a de moins en moins de choses dans cette maison très jolie, que le cabriolet finit par se casser la gueule, etc. Enfin bref, que du coup, lui, il se tire aussi et que, à l'instar de cette histoire d'amour qui n'a jamais vraiment débuté, ses biens matériels se délitent également.
Exactement, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une époque pour ce village qui rentre dans sa fin, en quelque sorte.
Et plusieurs années après, Hervé, il retrouve Angela. Et Angela, elle explique qu'elle entretient une relation, une correspondance avec son ex-mari. Enfin non! Ça joue qu'elle estime être toujours son mari, Bayardo. Elle lui envoie plein de lettres.
Ce qui est hyper nuisant d'ailleurs, parce que si tu divorces avec une meuf, c'est pas pour qu'elle t'envoie des textos toute la journée. Reviens-moi, je suis malade, je t'aime, reviens-moi.
Il la ghoste et elle continue.
Oui, et il la ghoste pendant 20 ans.
Elle lui envoie une première lettre, et puis ivre, elle en écrit une seconde, et puis ainsi de suite pendant 20 ans.
Mais franchement, ghosting de professionnel.
Ah ouais, très très fort.
Tellement professionnel que qu'est-ce qu'il fait des années après?
Il arrive en disant « Tes lettres, j'en ai pas lu une seule, ma grosse.
» Il ouvre la valise et les 2000 lettres tombent, genre boum.
Il n'en a pas ouvert une seule. Et alors, par contre, Grand Prince, il fait « Maintenant, je suis prêt. »
C'est bon, on peut être complètement... Et Angela, complètement in love, accepte.
Alors qu'avant, elle le détestait. Parce qu'on lui avait un peu imposé ce mariage. Mais du coup, elle a fantasmé sur le mec pendant des années. Écoute, j'espère que la fille qui est dans ma cave actuellement, d'ici 20 ans, elle.
Non, mais elle est trop
il m'ignore. Il m'ignore. Elle est pas morte. Elle est dans ma cave.
Les enfants, c'est pas comme le fromage, ça s'affine pas dans le cave.
Et elle, elle se dit, putain, il m'a ignoré, en fait, il est tellement in love de moi. Et elle tombe dans le panneau.
Mais oui,
elle tombe dans le panneau à tel point qu'elle se remet en ménage avec lui.
Parce que elle, on a eu tout le détail de sa vie, mais lui, on sait pas. Si ça se trouve, il est allé à Mexico, il s'est tapé des putes.
On sait qu'il a pris du bide et qu'il est un peu moins beau qu'avant.
Il est un peu moins beau, mais bon, elle l'aime d'autant plus parce qu'elle pense qu'il a des failles.
Et Hervé, donc, qui assiste à toutes ces retrouvailles, donc le narrateur, qui commence à expliquer que lui, c'est un très bon ami de Thiago Silva, donc il s'est fait planter il y a 20 ans.
Tu as tué mon ami, je vais te tuer maintenant.
Bah, j'ai l'impression que quand il affirme ça, tout le monde s'en fout.
Personne n'en a rien à foutre. Ce personnage, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il est jamais nommé, le Hervé. Tout le monde se confie à lui, mais c'est genre, ah, Hervé, bah, tu sais qu'il va le tuer. Et pourquoi tu l'arrêtes pas là? Parce qu'ils vont le tuer quand même, le Thiago Silva. Non, mais Hervé, laisse-moi t'expliquer. Faut que je te parle de comment je vais ce restaurant.
Bah, après, Hervé, il a pas été là pendant.
Aucun jugement moral. Il a jamais été. Oui,
Et quand même, il explique, il dit moi, je vais vous raconter des trucs. C'est plusieurs témoignages qu'on me raconte. Et à tel point qu'il nous met en alerte dès le début du bouquin en disant ça se trouve, je vous raconte de la merde en fait. Je vous retranscris ce qu'on m'a dit.
C'est une sorte de Christophe Onglat en fait dans le village.
C'est ça. C'est la fin du chapitre 4, on va pouvoir débuter le chapitre 5. Et débute le cinquième et dernier chapitre, dans lequel Hervé nous explique que pendant des années, les villageois se sont toujours sentis coupables, plus ou moins, de la mort de Thiago Silva, et qu'ils n'arrivaient pas à parler d'autre chose que de la mort de Thiago Silva. Et donc ensuite, on suit pendant quelques pages, en fait, l'enquête officielle de la justice. Cette fois-ci, on va se taper les faits, rien que les faits, et on va apprendre que le magistrat n'est pas certain, en effet, que Santiago soit véritablement celui qui a pris la virginité d'Angela, même si, des années après, Angela continue d'affirmer que c'est Santiago. Mais là, je me tourne vers mon expert judiciaire,
qui nous a retrouvé quelques écrits, au final, de cette Angela.
Oui, effectivement, on a retrouvé des documents qui remettent en cause la version officielle, hein, si j'ose dire, des faits tels qu'ils ont été relatés par le magistrat et par Angela. En effet, Angela, un petit matin où les vents soufflaient, alors que 10 ans environ avaient passé, la certitude qu'il était là, nu, il parle de Bayardo, hein, bien évidemment, dans son lit la réveilla. Rêve qu'il est là. Elle lui écrivit une lettre fiévreuse de 20 pages, dans lesquelles elle lui déballait sans pudeur les vérités amères qui croupissaient dans son cœur depuis la nuit funeste. Elle lui parla des stigmates éternels qu'il avait laissés sur son corps, du sel de sa langue, du feu de sa bite d'Africain. Mesdames et messieurs, comment peut-elle connaître sa bite d'Africain alors qu'ils n'ont pas couché ensemble ce soir?
Et est-ce que ce serait donc pas Bayardo qui aurait pris la virginité à...
Exactement.
Et c'était un moyen de ne pas se marier avec elle.
Exactement. Alors que pour l'argent, ça aurait été plus simple de rester sa femme.
Il avait trouvé une faille dans le contrat.
Est-ce que...
Il est fort.
Est-ce que Santiago ne serait pas mort pour rien?
Oui. Est-ce qu'au final, tout ce livre, on ne se rendrait pas compte que Santiago, il aurait pu être sauvé 15 fois par 15 personnes différentes et il ne serait pas mort pour rien? Parce que la meuf, au final, on apprend qu'elle le désigne un petit peu au hasard, quoi.
Donc Santiago est un dindon de la farce et un cocu, en plus.
Et un cocu, en plus. Sorte.
Malheureusement, nous n'avons pas de témoignage d'Angela qui confirme ou non...
Non, mais en revanche, nous avons Santiago au téléphone. Bonjour, Santiago.
bonjour, là, Hérald.
J'ai jamais touché Angela, et je la toucherai jamais.
Enfin, cette histoire de nazi, ce n'est pas ce que vous croyez. À l'époque, on ne savait pas ce qu'on faisait.
Du coup, Thiago Silva tué. Thiago Silva vengé par la justice.
Draper, pas vraiment.
Parce que qu'est-ce qui se passe à cet endroit, c'est que la justice, en fait, elle est un petit peu archaïque, puisqu'elle va récuser le fait que les frères Roberto Carlos ont tué Santiago Silva, en disant tout simplement, bah, c'est pas grave, c'est un crime d'honneur, et les crimes d'honneur, t'inquiète poteau, on peut y aller. Donc, sur le point de vue de la justice, c'est un petit peu crade. Sur le point de vue de la suite, on va avoir dans ce dernier chapitre un récit extrêmement précis des dernières minutes de Santiago Silva et de sa mort.
Et donc on revient dessus, on apprend qu'en effet, Pedro, un des deux frères Roberto Carlos, était bien plus décidé que l'autre à tuer Santiago. Santiago sort de chez lui le matin par la porte principale, donc comme il disait.
Et là c'est génial parce que tout le village est là. T'apprends que tout le monde est là. Tout. Et c'est assez dernièrement parce que, en gros, c'est un peu le côté, bah, il est déjà mort en fait, donc on va laisser les choses se dérouler, alors que t'avais vraiment tout le village, plein d'hommes qui auraient pu l'arrêter, qui auraient pu arrêter les frères, et qui vont rien faire.
On apprend que sa mère referme la porte derrière lui, sans le savoir qu'en fait, elle le condamne.
Une seule personne, en fait, essaie de le défendre. c'est la femme dans le bar qui, au moment où ils sont, au moment où il arrive sur la place, que tout le monde est là, et en fait,
elle retient
dans une corrida. Non, et elle les agrippe en hurlant à Santiago, court, et c'est là qu'il court pour rentrer dans sa maison, donc pour rentrer par la porte de devant qui était encore entrouverte.
Et sa mère a fermé la porte.
Sauf que sa mère pensait qu'il était là-haut.
C'est ça.
Sa mère pensait qu'il dormait.
T'oublies pas le pain, maman. Ouvre. T'as le pain. Mais non, mais où, je te dis. Bah tu ne rentres pas.
C'est quoi le code?
C'est quoi le code? Ça a changé le code, bordel.
Et il finit
charcuté, on peut le dire.
Oui, on peut le dire effectivement, parce que il ne peut pas tomber parce que les coups de couteau le transperçant le retiennent contre la porte.
Donc
c'est très violent.
Il se prend 40 coups de couteau, le ventre ouvert, les tripes à l'air, il fait quelques pas.
Il passe chez le voisin. Il passe qui sont en train de petit déjeuner. Imaginez la scène.
Bah, team Narcissus.
C'est quoi la pub chicorée là, tu sais?
Il y a l'ours qui arrive.
Le soleil vient de se lever. Santiago va bientôt crever.
Une belle journée avec l'Américo. Ah oh, mon Dieu, il a ses tripes dans la main. Et c'est la dernière image puisque Santiago s'écroule chez son voisin avec les tripes dans la main, et ça se termine là-dessus, sans une petite pensée pour la pauvre ménagère qui va devoir laver.
Ce qu'on appelle un happy end, façon Gabriel Garcia Marquez,
puisqu'il n'y a qu'un mort.
Oui, c'est vrai, il n'y a qu'un mort et c'est pas mal.
Oui.
C'est
qu'une chronique finalement.
Et qu'une chronique. Et c'est quand même pas mal parce qu'en effet, dans les Gabriel Garcia Marquez, il a tendance à faire mourir beaucoup de gens. Là, il n'y en a qu'un qui meurt. Mais du coup, c'est un petit peu le sort triste qui est réservé à Thiago Silva. Et c'était quand même un beau livre, finalement. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est hyper agréable à lire, en fait, du Gabriel Garcia Marquez. Ça se lit de manière très, très fleuve et y a pas de problème. Mm-hmm. Donc voilà. Toi, ça t'a plu, ce livre?
Moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis, c'est vrai que c'est un livre qui est pas forcément très récent, qui est quand même quelques dizaines d'années.
84.
Voilà, donc il a effectivement 34 ans. 34 ans, hein, déjà. Mais c'est vrai que ça se lit bien.
La vitesse à laquelle t'as fait la différence est assez puissante.
Il y a du calcul derrière, il y a les assistants qui calculent.
112 moins 80.
Tu sais, dans le notariat, on a des calculatrices qui traînent partout, hein, c'est quand même l'idée. Mais non, effectivement, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et puis qui est formidable. Et imaginez, il sort cette année, on appelle ça comment? Podcast d'une mort annoncée.
Chronique de la mort d'un podcast annoncé.
Te foutre de notre gueule, là? Ça se passe comment?
Écoutez, je vais y aller. J'ai un mort qui m'attend.
J'ai des actes à rédiger.
Mais livre très très agréable et justement qui peut se lire. Enfin, tous les livres de Garcia Marquez peuvent se lire. Il y a une lecture croisée qui peut être faite.
Parce que, oui, peut-être s'il y a des recommandations à nous faire.
Mais il y a toujours, en fait, il y a des détails. Effectivement, on sent que Gabriel Garcia Marquez prend un malin plaisir à disséminer, à saupoudrer des détails qui sont propres à d'autres romans qu'il a pu écrire dans ses livres, ce qui fait qu'une lecture globale de ses œuvres peut permettre de tout comprendre et un vrai maillage, comme on disait qu'il adore faire des descendances, etc., et des grandes familles, mais ses bouquins, pareil, il y a des liens partout, il y a des liens avec son temps de solitude, avec l'amour au temps du choléra, on parle des villes qu'on croise dans d'autres romans, et c'est vrai que c'est très agréable, c'est un des rares auteurs, enfin, c'est un auteur que moi j'aime beaucoup, en tout cas, parce que on peut en avoir une lecture globale, et il y a ce sens de l'épopée qui est un peu rare, je trouve, dans les auteurs du 20e siècle comme ça.
Gaspard, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, ça t'a plu?
Ça m'a plu, j'avoue que j'étais quand même un peu perdu par ce flot de détails parfois qui ne servent pas l'intrigue, mais en fait j'ai l'impression que moi qui connais assez mal Marquez, que c'est sa marque de fabrique. Comme nous aussi on est en train de construire un podcast Comic Universe, ça m'a fait penser un peu à l'étranger avec cette manière très clinique de nous raconter un meurtre. Ça m'a surtout fait penser à un autre roman français que j'ai lu il y a quelques années, qui avait eu le Goncourt, si je dis pas de bêtises.
Le mec, il a déjà lu deux livres, quoi.
Et qui s'appelle Le Sermon sur la chute de Rome, et qui, en plus, aussi reprenait cette histoire de bar, cette histoire de fatalité, petit village perdu près de la mer, bon là, c'était en Corse. Je trouve qu'il y a des élans assez similaires, et surtout que Le Sermon sur la chute de Rome faisait pareil, je crois, juste 150 pages.
Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu nous conseilles?
Oh bah écoutez, moi, je vous ai dit au début de ce podcast, j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup Gabriel Garcia Marquez, j'ai adoré Cent ans de solitude, L'amour au temps du choléra, c'était vraiment très bien, et puis qui sont vraiment super, donc franchement, je ne peux que vous recommander d'aller voir ça. Et ça m'a fait penser, en lisant ce livre, à un film que j'aime beaucoup, que je vous conseille aussi d'aller voir, qui s'appelle Affreux, sale et méchant. Une fois n'est pas coutume, je vous conseille d'aller voir ce film.
À la private joke.
Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je pense à ça, mais voilà, donc... Si vous ne l'avez pas encore vu après toutes ces recommandations, allez le voir, il est vachement sympa.
Et moi, je vous conseille, enfin, en tout cas, de ne pas regarder les adaptations cinématographiques des livres de Gabriel Garcia Marquez.
Oui, il y a un film.
Il y a un film.
Ça donne quoi?
Alors, j'ai regardé que je me suis limité à la bande-annonce cette fois-ci. Je me suis limité aux 3 minutes par rapport à l'heure 45 qui suit.
In a world!
Non, mais là, c'est Francis Corosi, je crois. Et c'est pas n'importe qui, donc c'est.
Bah, en tout cas, la bande-annonce ne donnait pas forcément envie.
Il y a Anthony Delon qui joue dedans, j'ai vu.
Non, ah oui,
qui joue Santiago.
Mais oui, c'est une coproduction. production franco-italiano-espagnole.
Anthony, Anthony, vamos a la cama, eh.
Et pareil, L'amour au temps du choléra avait été adapté au cinéma.
Ah oui, Javier Bardem, c'était horrible.
Exactement. Javier Bardem qui campait donc un homme qui était censé avoir 17 ans, donc le jeune héros, alors qu'il en a à l'époque déjà 35 et il en fait 50. Ans.
Voilà. Vous me faites peur, donc, monsieur.
Il y avait un petit problème à cet endroit-là.
On se retrouve la semaine prochaine pour parler musique avec un album mystère et avec notre invité mystère, comme d'habitude. Et notre prochain bouquin, ce sera dans un mois et on parlera cette fois-ci théâtre et fondation de la culture française avec Jean-Baptiste Poquelin et son donjon. Merci à toi, maître, du coup, faut t'appeler.
Merci, bon, écoutez, maître, c'est parfait.
Bah,
c'est
très bien. Merci à toi, maître Cyril.
On vous conseille son étude de notaire, qui est, ma foi, fort agréable.
Mes livres sont de collection LexisNexis, hein, si vous les cherchez dans toutes les bonnes librairies.
N'hésitez pas à penser à lui dès qu'un tonton, une tata, un pépé, une mémé...
décède.
Trépasse, hein. Merci. N'oubliez pas que la commode dans le salon, elle vous revient.
Que trépasse si je m'enrichis, c'est ma devise.
C'est très très beau.
On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi, Gaspard. Merci à toi, Cyril.
Merci.
Allez, bisous.
Ciao.